Bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. C'est une joie pour moi d'être là pendant mes vacances. C'est super. Et c'est toujours une joie de porter la parole. Hein. On va s'incliner dans la prière avant qu'on ouvre ensemble la Bible. Notre Dieu Père, nous te remercions ce matin de nous donner encore une fois cette occasion de nous rassembler autour de toi, autour de ta personne, autour de qui tu es, Seigneur. Parce que, Seigneur, si nous sommes venus, je l'espère, ce n'est pas par habitude, Seigneur, par tradition, ou parce que c'est dimanche, ou par obligation, Seigneur, mais parce que, comme ça a été rappelé, tu nous as aimés. Et, Seigneur, nous t'aimons. Nous voulons te le dire, Seigneur, nous t'aimons. Ce matin, on reçoit, Seigneur, notre adoration par tout ce que nous avons pu déjà chanter, Seigneur, partager, prier, et aussi, Seigneur, par ta parole, par l'écoute, par la mise en pratique, par notre cœur ouvert, Seigneur. Reçois ce que nous sommes, malgré nous, tel que nous sommes, et transforme-nous. Merci parce que dans ta grâce, tu le fais pour chacun d'entre nous. Et bénis ces instants, ouvre nos cœurs à tous, Seigneur, à ce que toi, tu veux nous dire à chacun, parce que tu es celui qui parle. Et Seigneur, comme le prophète pouvait le dire, eh bien, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, nous tenons devant toi. Nous avons besoin de toi. Bénis aussi les enfants, Seigneur, qui reçoivent de toi et qu'ils puissent, dès leur jeune cœur, Seigneur, eh bien, se donner à toi aussi. Merci pour toute ton œuvre, pour tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui se réunissent sur la face de la terre pour t'adorer et te louer ce matin. Malgré parfois nos différences, Seigneur, que tu les bénisses abondamment. Et que chacun dans ton peuple puisse être édifié. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi en 2 Samuel, chapitre 7 ce matin. Donc 2 Samuel, chapitre 7. C'est la première fois qu'un personnage apparaît là dans la parole, et j'aimerais qu'on regarde un petit peu ce personnage et puis les leçons qu'on peut en tirer pour nous-mêmes. C'est le prophète Nathan. Donc 2 Samuel chapitre 7, il est question du roi David, il est dit au verset 1, hein, « Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » On s'arrête là pour l'instant. Je veux juste qu'on s'arrête pour l'instant sur le personnage de Nathan. Donc, il nous est dit que c'est un prophète, ce qui veut dire qu'il recevait des conseils, des révélations, des visions peut-être parfois, hein, de la part de Dieu. En tout cas, il avait une sagesse de la part de Dieu pour conseiller ceux qui étaient autour de lui, notamment les rois ou ceux qui venaient le voir pour justement avoir besoin de direction dans leur vie. Ils avaient des questions, il y avait peut-être des affaires des fois à régler qui étaient tendancieuses. On allait voir le roi, mais on pouvait aussi aller voir le prophète. Peut-être certains voulaient adorer aussi, offrir des sacrifices, ce genre de choses. Mais ils pouvaient aussi aller voir le prophète. Il était là pour expliquer aux hommes, pour conduire les hommes de manière, on va dire, inspirée de Dieu. Voilà. Dieu lui parlait, lui révélait des choses et il devait les transmettre. Donc, Nathan, ça veut dire donner. D'accord ? Ça veut dire donner. Celui qui est donné. Et quand on voit toute l'histoire, on ne va pas la lire là, ce serait un petit peu long, même si ce serait intéressant, mais quand on voit tous les passages où apparaît Nathan, on se rend compte que c'est quasiment toujours lié avec David et il a été donné à David. On peut le dire, hein, comme un conseiller et aussi comme un ami. Il était là. Dans les mauvais moments, il était là, on va y revenir. Hein. Dans les bons moments, il était là aussi, mais il était là. Il était présent, il était à côté. Et c'est un personnage qui est essentiel dans la vie du roi David. Si vous lisez toute la vie de David, vous voyez que Nathan, une fois qu'il est roi, Nathan est un personnage important pour David. Et même salutaire à certains moments de sa vie pour David. quand il a péché avec Bathsheba, par exemple, on y reviendra un petit peu plus tard, mais Nathan était là pour le reprendre. Il était salutaire. Il était là au bon endroit. Mais il a été donné. Donc c'est son nom, veut dire donné. Hein. Et il a été donné. Dieu avait un plan pour lui dès le début. C'était pour David. Pour d'autres aussi, hein, parce qu'il y avait tout le peuple qui était là. Mais il y a vraiment cette relation avec David qu'on voit. Et ça m'a interpellé, hein, personnellement, parce que on le sait, on l'a déjà entendu, vous l'avez déjà entendu. Dieu a un plan pour notre vie. Dieu veut quelque chose pour chacun d'entre nous. C'est la vérité. Mais parfois, on vit notre vie et puis on oublie un peu ça. Je veux dire, c'est pas qu'on le sait pas, mais c'est concrètement, ça se manifeste pas toujours de la manière dont nous, peut-être, on s'attendrait à le voir. On vit notre vie. Et puis voilà. Si on a un travail, alors on va au travail. On a des loisirs, on fait des loisirs, on fait certaines choses. Et puis, on n'a pas toujours la conscience là qui est là pour nous dire « Oublie pas que tu as été donné, tu as un plan. Dieu a un plan pour ta vie. » Pas toujours. Et moi, ça m'a repris parce que depuis quelques années, donc là, ceux qui me connaissent depuis que je suis là, vous savez que j'aime le badminton et que j'ai fait beaucoup de badminton avant. Voilà. Et certains savent, parce qu'ils étaient là hier aussi, que j'ai repris le badminton un petit peu et que je refais un petit peu des compétitions et ce genre de choses. Et depuis quelques années, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, mais Dieu m'a donné un don pour ça, pour jouer au badminton. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai reçu un don. Ça vient de Dieu. La parole dit, tout ce qui est donné vient de Dieu. Il n'y a rien que je peux me glorifier, c'est pas moi qui suis meilleur, c'est pas moi qui suis bon, c'est pas voilà, c'est tout vient de Dieu. Donc Dieu m'a donné un don. Et je me suis posé la question depuis quelques années, pourquoi ? Mais vraiment, pourquoi ? Ça, c'est pas juste parce que c'est sympa. Enfin, c'est sympa, mais c'est pas juste pour ça, il y a un truc. Donc depuis 3 ans, j'ai repris, je me suis inscrit au club à Béziers, là où je suis. Et je pourrais pas vous multiplier tous les témoignages et tous les exemples, mais je me suis rendu compte encore très récemment que Dieu m'avait donné pour eux. Parce que ils ont besoin d'entendre la parole, ils viendront pas à l'église. La plupart. Il y en a qui sont déjà venus. Mais la plupart, ils n'auront même peut-être pas la conscience de réfléchir à Dieu, d'ouvrir la Bible. Mais Dieu m'a donné pour eux. Et par le témoignage que je peux avoir, tout de suite ils le voient, c'est rapide, hein. Tout de suite ils voient la différence, hein. Et ils posent des questions. Et j'ai des portes ouvertes que j'aurais pas autrement. Et je me suis dit, mais Dieu m'a donné ça. Alors après, c'est à moi d'avoir la sagesse avec le Seigneur pour que ça reste équilibré. Mais Dieu me l'a donné. Donc hier, par exemple, j'ai fait une compétition à Perpignan. Voilà. Puisque c'est mes vacances, alors je me suis dit, ça veut dire que je vais faire une compétition. Et mon adversaire, à un moment donné, mon adversaire m'a dit, ah, mais c'est toi qui es pasteur. Je dis, oui, c'est moi, a priori. Peut-être qu'il y en a un autre, mais c'est moi. Pourquoi pas ? Non, il a essayé de m'acheter, je lui ai dit, je suis incorruptible. Et il m'a dit, pasteur, c'est quoi la différence avec... j'ai toujours un Nouveau Testament dans mon sac de badminton. Et j'ai pu sortir mon Nouveau Testament. Et pour la première fois de sa vie, cet homme a pu lire des versets de la Bible. Il n'avait jamais lu la Bible. Et je ne sais pas comment il aurait pu la lire autrement, mais il a lu la Bible. On était en plein milieu du gymnase, là. J'ai sorti le Nouveau Testament, j'ai ouvert la Bible, on a lu ensemble des versets de la Bible. Et je lui ai dit, on n'est pas rentré dans tous les détails, mais il a eu un contact avec la parole. J'ai pu annoncer la chose. Donc, c'est un exemple parmi plein d'autres choses, d'accord ? Mais dans mon contexte à moi, vous avez votre contexte à vous. C'est peut-être pas le badminton, c'est peut-être autre chose. Mais chacun, on a un contexte, on est donné. On est donné. Et parfois, on se dit, on le voit pas tout de suite, et ça se révèle après. Par exemple, si je reprends un exemple du badminton, il n'y a pas longtemps, j'ai un autre collègue de badminton qui m'envoie un texto, il était tard, il devait être 20h par là, et qui me dit, j'ai besoin de t'appeler, est-ce que tu es disponible ? Alors, sur le moment, ce n'était pas possible, mais je lui dis, écoute, dans une heure ou deux, si tu n'es pas couché, moi je ne serai pas couché, donc tu m'appelles. Donc il m'a appelé vers 22h, on a passé 45 minutes au téléphone. Il me dit, écoute, je ne sais pas à qui parler, on vient d'apprendre que ma femme est enceinte. Je dis super, c'est génial. Et il me dit mais je sais pas comment faire. Il me dit je suis complètement perdu. Il me dit je sais pas à qui en parler. Je me suis dit tiens je vais t'appeler toi. Voilà. On sait pourquoi nous on le sait. C'est le Seigneur qui dirige. Hein. Mais il m'a dit je vais appeler Tristan. Il a des enfants. Et j'avais déjà discuté avec lui du Seigneur un petit peu et aussi du fait que je roulais pas sur l'or non plus. On avait discuté un peu salaire, tout ça, etc. Et il savait que je vivais par la foi et que c'est le Seigneur qui pourvoyait. Et pour lui, il est employé par le club de badminton pour entraîner quelques heures par semaine. Donc il a un tout petit salaire aussi. Et sa femme, elle donne des cours de danse comme ça, de temps en temps. C'est pas un... Et donc lui, financièrement, pour lui, c'était un gros... C'était quelque chose... Il allait avoir un enfant, ils étaient prêts à l'assumer, mais financièrement, il y avait un gros problème. Qui l'a appelé? C'est pas avec moi qui fait toutes les soirées. Hein. C'est avec les autres du club. Hein. Moi, j'y vais pas. Ça m'intéresse pas, leur soirée. Là. Ça m'intéresse pas du tout. J'y mets pas les pieds. Tous les week-ends en compétition, il n'est pas avec moi. Moi, je le vois que quelques heures dans la semaine. Et encore, des fois, je le vois presque pas toutes les semaines. Mais qui est-ce qu'il a appelé? Celui qui marche avec le Seigneur. Celui qui était donné, en fait. Eux, ils n'en ont pas conscience de tout ça. Hein. Ils pensent autre chose. Et pendant 45 minutes, j'ai pu lui dire, écoute, moi, je veux bien t'expliquer, je ne sais pas si tu vas tout comprendre. Mais tu sais que moi, je crois en Dieu. Donc moi, je ne vis pas sur la même planète que toi. Mais je vais t'expliquer quand même. Et donc, c'était super parce que j'ai pu lui expliquer pourquoi moi, malgré qu'on ait trois enfants, malgré que mon salaire, il est ce qu'il est par la grâce de Dieu, je ne m'en plains pas, c'est Dieu qui pourvoit. Malgré ça, ben, on arrive à finir chaque mois, parce que toujours Dieu pourvoit. Et on rend gloire à Dieu, et on rend grâce à Dieu. Et c'est extraordinaire ce que Dieu fait pour nous. Et des fois, moi j'aurais pu me dire, ah, ce mois-ci c'est galère, on arrive quand même, mais c'est galère, et pourquoi? Parce qu'il fallait que je parle à un moment avec Nino, vous pouvez prier pour lui, il s'appelle Nino, et Sandra, sa compagne. Vous pouvez prier pour eux, on les a invités à la maison du coup, cette semaine-là, ils étaient jeudi midi, ils étaient à la maison. Et on a pu ouvrir la Bible ensemble, parler du Seigneur. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a été donné pour ceux qui sont autour de nous. De la même manière que Nathan a été donné là pour David, de la même manière, chacun d'entre nous, on est donné. Mais c'est Dieu qui le fait, c'est pas nous. Mais on est donné à ceux qui sont autour de nous. Et on doit en avoir conscience. Nathan, je pense qu'il en avait conscience qu'il a été donné pour David. Il était prophète, etc. Mais c'est valable pour chacun d'entre nous. On doit le savoir. C'est important. Dieu a vraiment un plan pour nos vies, mais pas que pour la tienne. Il a un plan pour tous ceux qui sont autour de toi. C'est pas juste toi que ça concerne. C'est ceux qui sont autour. Et si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez ce privilège de connaître le Seigneur Jésus comme votre sauveur, vous avez votre famille, bien sûr, j'y reviendrai après, mais vous avez aussi l'assemblée. Nous sommes le corps de Christ, il est dit. Il est dit que tout ce qui nous a été donné, les dons que nous avons, ne sont pas pour nous-mêmes. Ils sont pour l'édification du corps de Christ. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous sommes donnés les uns pour les autres. Vous avez besoin de moi et j'ai besoin de vous. Et on n'y peut rien. C'est pas nous qui avons décidé ça. C'est le plan de Dieu. J'ai été donné pour vous, vous avez été donné pour moi. De la même manière que j'ai été donné pour certains joueurs de badminton. Vous savez, il y a 200 licenciés dans ce club. Je ne suis pas en contact avec les 200, mais avec au moins une centaine, minimum. Mais pour une centaine de personnes, je suis donné. Et dans votre contexte à vous, là où vous êtes donné. Et c'est important de bien le retenir. Parce que c'est notre témoignage. Ça veut dire que même si je ne parle pas, parce que des fois les contextes ne se prêtent pas à ce que j'ouvre la bouche. Il y a la manière dont je vis pour le Seigneur. Il y a la manière dont je réagis dans mon contexte à moi. Et il y a la manière dont je me comporte sur un terrain de badminton par rapport aux autres. Il y a la manière dont je me comporte dans ma relation avec les autres joueurs. La manière dont je me comporte face aux blagues de mes collègues. Non mais... C'est la réalité, on est dans du concret. Ils font leurs blagues pourries, là. Et moi, comment je me comporte? Est-ce que je suis le premier à rigoler? Après, c'est pas crédible. Qu'est-ce que je vais dire derrière? Je suis pas crédible. Ou est-ce que, quand ils le font, après, ils disent « Ah, Tristan, excuse-moi, je n'avais pas vu que tu étais là. » Ah oui, ça arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois. « Ah, Tristan, pardon, je n'avais pas vu que tu étais là. » C'est vrai que toi, voilà. Ils ne peuvent pas s'en empêcher parce que c'est ancré, mais au moins ils savent. C'est pas grave. Mais quel témoignage je rends? Parce que comme je suis donné pour eux, il y a un jour où ils auront besoin que j'ouvre la bouche. C'est sûr et certain. Ce jour viendra. Et là, il faudra que ce soit crédible avec la manière dont je vis. Alors pour Nathan, on ne sait pas trop beaucoup de choses. Hein. Ça raconte surtout l'histoire du roi David, en fait. Hein. Et puis, on a Nathan qui est là. On le voit. on n'a pas toute sa vie, on ne connaît pas son enfance, beaucoup de choses. Voilà, on ne sait pas. Mais on sait une chose. Il a été donné à David et il était là au bon moment. Mais il n'est pas parfait. Comme tous les personnages qu'on voit dans la Bible, à part le Seigneur Jésus. Il n'est pas parfait. Parfois, il passe à côté. Et là, vous avez cette histoire, ici, qu'on vient de lire les trois premiers versets, hein, où David, tout d'un coup, s'est construit une belle maison, et puis il se dit, mais c'est pas possible. Comment, moi, j'ai une belle maison, et Dieu, il habite dans une tente. Alors, vous imaginez ? Regardez votre maison chez vous, et vous imaginez que Dieu est dans une tente dans le terrain ? Vous dites, attends, moi, je vais dormir sous la tente, et puis on va faire l'inverse. On va échanger quand même, il y a un problème, là. Donc, ce que David pense là est bon, et d'ailleurs Dieu ne va pas lui reprocher de penser ça non plus, d'accord ? Mais, du coup, qui il consulte ? Ben Nathan, c'est celui qu'on consulte. Il consulte Nathan, et il dit à Nathan, écoute, c'est pas possible, moi je ne peux pas vivre comme ça dans ma belle maison, et Dieu dans une tente. Je vais construire une belle maison pour Dieu aussi. Et que lui dit Nathan ? Et il lui dit pas, non, écoute, c'est pas à toi de le faire, ou il lui dit pas, attends, on va consulter Dieu, et après, je reviens vers toi et je te dirai. Nathan, il est enthousiaste là. Parce que pour Nathan, ça semble une évidence, presque, ce que dit David. C'est quelque chose qui est bon, c'est pas mauvais, c'est pas un péché, c'est rien du tout. Il lui dit quoi ? Il lui dit, ben, va, fais tout ce que tu as dans ton cœur. Pourquoi ? Parce que l'Éternel est avec toi. Nathan savait que Dieu était avec David. Pourquoi ? Parce que là, juste avant, il dit, hein, il habite dans sa demeure une fois que Dieu a chassé tous ses ennemis. Ça y est, c'est fini. Les conquêtes sont terminées, les guerres sont finies. Enfin, il peut jouir de la paix, d'accord ? Et Nathan a vu tout ce que Dieu a fait pour David. Et il dit, mais oui, Dieu est avec toi, c'est clair, l'Éternel est avec toi. Donc fais tout ce qui est dans ton cœur. Sauf que la nuit même, Dieu va parler, verset 4, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure ? Bon, je vous passe le reste, on pourrait tout lire aussi, mais... Et il fait comprendre à Nathan, non, c'est pas David, c'est Salomon, c'est ton fils qui le fera, etc., etc. Il y a une prophétie aussi sur Christ, hein, juste après, mais non. Pourtant, la première réaction du prophète Nathan, c'est de dire, oui, vas-y, fais-le, c'est trop fort, t'as une bonne idée, c'est génial, c'est forcément quelque chose qui a la gloire de Dieu en plus que tu veux faire. Parce que David... Il n'est pas question ici que David veuille le faire pour dire « C'est moi qui ai bâti la maison de l'Éternel, etc. » C'est pas ça, c'est vraiment son cœur est dedans. C'est vraiment son cœur est là pour bâtir quelque chose pour Dieu, pour glorifier Dieu en fait. Quelque chose de bon. Mais, une fois que Dieu a parlé à Nathan, c'est pas ça. C'est pas ça. Pourquoi ? Dieu l'explique après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le plan de Dieu, c'est que ce soit Salomon ici. Ce sera la gloire de Dieu avec Salomon aussi. Je parle du temple qui est construit, hein. Le temple construit sera la gloire de Dieu, même si c'est Salomon qui le fait, mais ce n'était pas pour David. Mais Nathan, sa première réaction, c'était de dire oui. Et pourtant, il se trompe, parce que Dieu dit non après. Alors, il n'est pas parfait. On n'est pas à sa place, on n'était pas là pour le voir, d'accord ? On n'est pas là pour le juger, loin de là. Ça serait déjà bien d'être comme Nathan. Mais, une chose est sûre, il a parlé rapidement. Et... Je pense, c'est mon opinion, je pense qu'il aurait dû consulter Dieu d'abord. D'abord demander à Dieu. Dire, écoute, surtout pour quelque chose, je veux dire, c'est grand quand même ce que demande David là. D'accord ? C'est pas je vais acheter une vigne. Même si acheter une vigne, il faut le faire avec Dieu, c'est pas la question. Je veux dire, il parle quand même de construire le temple. Tout le culte d'Israël était lié à ça. C'était l'arche d'alliance, c'était la présence de Dieu. Tout était lié à ça. Sans ça, vous n'avez pas de culte en Israël. C'est quelque chose qui régit toute la vie spirituelle d'Israël dont il est question. Donc, je pense que Nathan aurait dû dire, écoute, on va consulter l'Éternel. On va se mettre devant Dieu, on va prier ensemble. Et Dieu aurait dit la même chose qu'il a dit à Nathan après, hein, il n'y a pas de souci. Hein, c'est le plan de Dieu, il ne bouge pas lui. Hein, il aurait dit la même chose. Donc oui, on est donné à ceux qui nous entourent, c'est vrai. Dieu a un plan pour notre vie là où on est, avec ceux qui nous côtoient et entre nous. Mais faisons preuve de sagesse. Faisons preuve de dépendance de Dieu. Parce qu'on peut avoir plein de bonnes idées, même pour le Seigneur. Plein de bons projets pour le Seigneur. On peut en avoir plein. Si vous n'en avez pas, je vous donne des listes. Hein. Il n'y a pas de souci, on peut avoir plein d'idées. Mais, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous ? Est-ce que c'est vraiment à nous de le faire ? Est-ce que ça nous est donné vraiment à nous ? si on ne se met pas devant Dieu, si on ne se pose pas, si on ne lui demande pas, on peut passer à côté. Donc oui, on est donné, c'est vrai, à d'autres, mais avant de partir, je prêche pour moi le premier, je vous assure, avant de partir tête baissée, il faut se poser et dire: Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Parce que ça me paraît une très bonne idée, mais est-ce que c'est vraiment ton plan pour nous? De la même manière que quand quelqu'un nous demande conseil, bon, prêcher l'évangile, on y va, hein, mais si on n'a pas prié, si on ne prie pas régulièrement, par exemple, moi je demande régulièrement à l'Assemblée de prier pour mes contacts justement au badminton, parce que justement je sais qu'à un moment je vais devoir ouvrir la bouche, et puis des fois je ne peux pas dire: écoute, je te rappelle dans une semaine le temps que j'ai prié. Je ne peux pas, c'est sur le moment, c'est sur le vif. Mais je sais que l'Assemblée a porté ça depuis des semaines, depuis des mois, à prier pour ça, pour que Dieu conduise quand ce sera le moment, pour que la parole soit la bonne. Moi-même, j'ai prié pour dire: Seigneur, conduis-moi au bon moment, pour que quand vraiment j'ouvre la bouche, ça soit... Voilà. Par exemple, hier à la compétition, je sais que les frères et sœurs de l'Église, ils ont prié. Ils ont prié pour ça, parce qu'ils le savent. Ils se sont mis ensemble le mercredi soir et ils ont prié. Seigneur, que tu diriges, qu'il y ait des occasions. Le Seigneur les a créées. Ce qui est intéressant avec Nathan, aussi ici, finalement, c'est son humilité. Parce que Dieu lui dit la chose. Non. Dieu aurait pu lui dire: tu t'es trompé, hein. Il n'a pas dit comme ça, mais il a compris, Nathan. Et il va retransmettre fidèlement à David tout ce que Dieu a dit. Et vous remarquez, bon, il y aurait plein de choses qu'on peut lire, on peut voir déjà dans ce passage, mais vous remarquerez que David ne dit pas à Nathan: bah, tu m'as dit oui hier. Bah, je comprends pas, tu m'as dit oui hier. T'as changé d'avis? Bah alors, tu t'es trompé? Ah, c'est facile ça. Aimons-nous les uns les autres ce matin. C'est facile de renier à dire à quelqu'un: ah, et la personne dit: je me suis trompé, hein, parce que c'est Nathan. C'est ce qu'il dit. Quand il dit à David: écoute, voici ce que dit l'Éternel, il dit à David: écoute, je me suis trompé. En substance, il lui dit: je me suis trompé. Parfois, on revient vers un frère ou une sœur ou vers quelqu'un et on dit: bah, bon, on va rester dans le cas de frères et sœurs. On vient vers un frère ou une sœur, on dit: je me suis trompé. Qu'est-ce qu'on entend en face? Ah bon, tu t'es trompé? Ou alors: je te l'avais dit, hein, vraiment, là, je te l'avais dit. Hein. Ah, je te l'avais dit, je t'avais prévenu. T'as pas voulu m'écouter, je te l'avais dit. La personne dit: je me suis trompé, ben, c'est trompé, voilà. Et il a l'humilité de le reconnaître. Si j'ai l'humilité de le reconnaître, t'as pas besoin de me redire en face derrière: je te l'avais dit. Je le sais bien qu'il me l'avait dit, si ça avait été dit. Voilà, ça n'a pas été dit dans le contexte, mais à partir du moment où c'est dit, ben, on passe juste à ce que le Seigneur fait, c'est tout. On avance. Mais Nathan ici se laisse instruire et reprendre aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure, vous pouvez tourner en 2 Samuel 12, par rapport à Nathan. Nathan n'a pas été donné à David, je vous l'ai dit, je le répète, que dans des situations faciles, mais parfois aussi dans des situations difficiles. J'aurais pas aimé être à la place de Nathan au chapitre 12, lorsque David a péché avec Bathsheba, qui a transgressé quasiment tout, enfin, tous les commandements, parce qu'on en transgresse un, on les transgresse tous. Hein. Il a transgressé tous les commandements de Dieu, volontairement. Et Nathan est là, et il doit lui dire. Comment je vais dire ça? Il doit lui dire. Hey. Alors, Dieu lui donne la sagesse. Hein. Et puis il va raconter cette histoire. Donc chapitre 12, l'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Donc il lui raconte une histoire au début. Hein. David ne fait pas le lien. Hein. C'est lui, Nathan lui raconte une histoire. Peut-être qu'il a cru que c'était vrai et qu'il devait trancher, je ne sais pas. Hein. Mais il lui raconte une histoire. Verset 2, le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait dans son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Et il a pris la brebis du pauvre, l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Facile à juger, hein. Et Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là. » Il n'enrobe pas dans le truc, hein. Mais il lui dit, « Tuez cet homme-là. » On n'a pas le ton sur lequel il l'a dit, parce qu'on ne peut pas écrire un ton de... Nous, on met des points d'exclamation, des trucs, et encore en grec, enfin, en hébreu, il n'y a pas non plus. On ne sait pas sur quel ton il l'a dit. Je ne pense pas qu'il ait crié sur David. Ça ne semble pas être en accord avec le personnage de Nathan. Je ne pense pas qu'il ait crié. Mais il lui a dit la vérité. Ça, c'est clair. Il lui a dit « Tuez cet homme-là. » Bon, vous connaissez la suite pour ceux qui l'ont lu. Hein. David se repent, il comprend, il se repent de son péché. Lisez le psaume 51, entre autres, hein, et vous aurez la repentance de David, où Nathan est mentionné aussi au début. Vous aurez la suite. Mais Nathan a été là au moment difficile. Parce que c'était un moment difficile. Il devait se présenter pour dire ça. Facile d'aller vers un frère ou une sœur, hein, pour dire « Tout va bien ?» C'est facile, hein. Mais ici, c'était plus compliqué que ça. Alors, c'était ce qui était demandé à Nathan. Il ne nous a pas demandé à tous de faire la même chose. Hein. C'était ce qui était demandé à Nathan. Ce n'est pas toujours des circonstances avec un péché à dévoiler, voilà, etc. Mais, des fois, il y a des moments qui sont compliqués. Il y a des moments difficiles, même dans une vie d'église. Il y a des moments difficiles, très difficiles. Mais à ce moment-là, on est où ? Est-ce qu'on est là ? Ou est-ce que dès que c'est difficile, on s'en va ? Vous savez, dans notre assemblée, on a des personnes qui viennent. Moi, je les appelle des électrons libres. Ils papillonnent dans plein d'églises, en fait, à Béziers. Vous savez ? Ils font église après église, après église, après église, puis ils reviennent, puis ils retournent. Ils restent peut-être des fois un an, hein, dans une église. Et puis après, ils partent dans une autre église pendant un an. Et puis après, c'est une autre église pendant un an. Et puis après, c'est une autre église pendant un an. Et si vous regardez bien, ils restent tant que tout va bien. Quand tout va bien, ils sont là. Toujours. Et même fidèles, hein, attention. Hein. Fidèles, investis, engagés. Bon, pas membres. Parce que si on est membre, on s'attache. Il ne faut surtout pas s'attacher. Pas membres. Hein. Mais ils sont là. Tous les dimanches matin, aux réunions d'études bibliques, on les voit plus que certains membres. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. On les voit plus que certains membres. Si vous filez un coup de main, ils filent un coup de main. S'il faut nous garder les enfants, ils viennent garder les enfants à la maison pour nous dépanner. Ils sont là. Mais le jour où ça ne va pas, où il y a des difficultés, l'église traverse une période difficile, dans une autre église où ça va bien. Et puis là-bas, un jour, il y a des problèmes, où il y a des difficultés, parce que c'est comme ça, il y a des moments difficiles, une autre église pendant un an, ou le temps que ça ne va pas, le temps que ça va là-bas. Et poum, et poum, et poum, et poum. Mais vous savez, il y a plus de chrétiens qu'on pense qui sont comme ça. Hein. Nathan a été donné à David, il est resté. Dans les moments difficiles, il est là. Il est présent. Il assume. Il assume. Même si c'est compliqué. Même si parfois... Et j'imagine que Nathan avait de la peine dans son cœur, hein, d'avoir vu David commettre ces péchés-là. Et je suis convaincu que Nathan avait de la peine. Il était triste. Regardez Saül et regardez Samuel. Regardez la peine de Samuel devant ce que faisait Saül. On le voit. Il avait de la peine. Il avait de la peine. Même il était prêt à supplier Dieu pour que Dieu change d'avis, pour Saül, parce qu'il avait de la peine pour lui. Il était attaché. Et Nathan ici était attaché à David. Sans aucun doute, il avait de la peine. Il était triste de voir ça. Mais il n'a pas dit du coup, écoute, puisque c'est ça, débrouille-toi. Moi, je passe à autre chose. Là-bas, c'est plus facile là-bas. Je vais aller là-bas. C'est pas ce qu'il a dit. Il est resté fidèle. Il était présent. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire aussi. Votre assemblée, comme mon assemblée, à Béziers, c'est pareil. Il y a des périodes, il y a des saisons, il y a des hivers, il y a des printemps, il y a des étés, il y a des automnes. Il y a des moments qui sont plus difficiles, il y a des moments où c'est plus facile. Il y a des moments très, très, très compliqués. Il y a des moments où on a l'impression que vraiment, voilà, on surfe sur une vague, et tout va bien. C'est partout pareil. Mais ce que Dieu demande de nous, c'est la fidélité. C'est la constance. C'est la persévérance. C'est la droiture. Et c'est aussi la sincérité ici. Vous savez, en Proverbe, Proverbe 27, 6, hein, il est dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Sous-entendu, l'ennemi caresse toujours dans le sens du poil. « Oui, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est pas ta faute. Oui, mais on va trouver une solution parce que de toute façon, c'est pas toi, etc. » C'est toujours dans le sens du poil. L'ami véritable, dit la parole, hein, et dans les Proverbes, on a un bon portrait aussi, il dit la vérité, même si ça doit blesser. Parfois, il doit le dire avec douceur, hein, c'est ce que dit la parole, avec douceur, avec amour, avec tact, avec sagesse. Mais ça restera la vérité. Et Nathan, c'est ce qu'il a été pour David. Il est venu, il a dit la vérité. Tu es cet homme-là. Avec peine, il lui a dit, je suis sûr, hein, c'est sûr. Mais il lui a dit, tu es cet homme-là. C'est la vérité. Pas besoin d'être hypocrite et d'enrober avec des. Ou de caresser. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Il a parlé sincèrement. En 2 Chroniques, si vous voulez aller avec moi en 2 Chroniques, on retrouve Nathan. 2 Chroniques 29. Deux Chroniques 29, verset 25. Il est question du roi Ézéchias. Donc on est bien plus loin. Hein. On est question du roi Ézéchias qui rétablit toutes les cérémonies du culte, etc. Hein. Je passe. Il y a un réveil sous Ézéchias. Je vous passe les détails. Hein. Et au verset 25, il est dit, il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes, des harpes, selon l'ordre de David, de Gad le voyant du roi, et de Nathan le prophète. Car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Donc, ça veut dire que du temps de Nathan, de David, et de Gad, a priori, de leur temps, ils ont organisé, on va l'appeler ça comme ça, hein, ils ont organisé le culte avec des chants, avec des instruments, la louange, d'accord ? Ils ont organisé la louange. David a composé, je ne sais pas combien de psaumes, ils ne sont pas tous de lui, mais beaucoup. Il a composé beaucoup de psaumes qui étaient justement des cantiques, hein, des chants qui étaient pour le culte. Okay ? Et il est dit que dans l'organisation de la louange, ils avaient des catégories de lévites qui devaient faire telle chose, telle chose, telle chose, je ne rentre pas dans les détails. Dans cette organisation, Nathan, il était là, ok, pour la louange. Ce qui m'a touché là, c'est l'idée que j'ai été donné pour l'assemblée, vous avez été donné pour l'assemblée, pour qu'on forme le corps de Christ, pour la louange, d'accord. Donc là, ça s'est concrétisé, ils ont organisé. Après, il y avait les chants que David faisait, j'imagine que Nathan a dû les chanter avec David à un moment donné, hein. C'était pour la louange. La réunion des enfants de Dieu, c'est pour la louange. Si on se rencontre, si on est donné l'un à l'autre, les uns aux autres, c'est dans le but de louer Dieu. C'est pas dans le but de médire de quelqu'un. C'est pas dans le but de parler dans le dos de quelqu'un. C'est dans le but de louer Dieu. Si on se retrouve ensemble, et je ne vous parle pas forcément d'un dimanche matin, je ne vous parle même pas forcément d'être dans l'église, hein, je vous parle de se rencontrer, d'être entre enfants de Dieu, que ce soit dans n'importe quel contexte. Ça doit l'être pour la louange, pas pour autre chose. Pour la louange. Éphésiens, je vous cite, le prenez pas, c'est affiché, c'est vrai ici. Vous êtes high-tech, on n'affiche pas encore les versets. Au moins, ils sont obligés de chercher dans la Bible. Hein, bon, après. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. J'aurais pu choisir d'autres versets hein, dans le Nouveau Testament, hein. Vous en connaissez peut-être d'autres, mais j'ai choisi celui-là. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais au contraire quelque chose qui serve à l'édification, à l'encouragement, qui communique de grâce à ceux qui entendent. Si nous nous réunissons, si nous nous retrouvons, c'est pour ça. C'est dans le but de louer Dieu. Si c'est pour parler d'un frère ou d'une sœur qui n'est pas là, attendez qu'il soit là. Généralement, on ne parle plus après quand il est là. Vous savez, c'est comme deux personnes qui discutent, et puis le troisième arrive et un blanc, il ne parle plus. Bon, on sait qu'on parlait de nous. Hein. On n'est pas si bêtes quand même, hein. On a compris l'idée. Tout d'un coup, un grand blanc, de quoi vous parliez ? Non, de rien. Ouais, d'accord, ok, on a compris. Mais parler dans le dos des gens, c'est quelque chose qui, dans le monde, est banal. Tout le monde le fait. Et même pas, ils pensent que c'est mal, hein, c'est même pas la question. La personne peut être juste à côté, ils pourraient poser parfois des questions à la personne et tout. Ils vont parler juste derrière. Hier, pendant que je jouais, il y avait Ketia qui était assis derrière moi et qui m'encourageait, des fois. Mais elle était là, c'était le principal. Et pendant que je jouais, je ne sais plus quel match, il y avait des personnes, c'était juste à la table où ils annoncent les matchs, tout ça. Il y avait des personnes derrière qui parlaient de moi. Juste derrière. Ils auraient pu attendre la fin du match et poser des questions. C'était justement sur le fait, c'est le pasteur qui devait se marier ou pas, voilà, c'est ça. C'était la question qu'ils avaient, voilà, etc. Mais ça m'a permis d'annoncer l'évangile après, de pouvoir discuter. C'était la question que mon adversaire m'a posée, c'était cette question-là, en fait. Et c'était lui qui parlait derrière. Bon, lui, il est venu après m'en parler, c'est bien. Mais ça parle derrière. Et je peux vous dire, j'imagine vous vivez aussi, mais dans le contexte du badminton, voilà, dès qu'il y en a un qui n'est pas là et que je suis avec les autres, mais ils n'arrêtent pas de parler sur l'autre. C'est un truc de fou. Tout le temps. Il arrive, boum, on change de sujet, on part sur quelqu'un d'autre qui n'est pas là. Je dis, les gars. Mais c'est la manière dont le monde fonctionne. Et malheureusement, c'est triste. Mais parfois, on le retrouve dans nos assemblées. Parfois, on retrouve la même chose dans nos assemblées. Et c'est triste. C'est triste. Parce que ce n'est pas le monde qu'on doit copier. Ce n'est pas cet esprit du monde qui doit être en nous. On n'a pas besoin de ça. Si on parle les uns sur les autres, ça devrait être au contraire pour prier. Ça devrait être pour s'encourager. Ou ça devrait être pour partager un fardeau. Mais pour le reste. Mais ça, c'est le travail de l'ennemi. Et on ne veut rien avoir à faire avec lui. Parce qu'on est au Seigneur. Dernière chose, et je termine avec ça. Je ne sais pas combien de temps vous avez ici. Chez nous, ce n'est pas très calculé. Mais. Alors, c'est dans 1 Roi, pardon. 1 Roi, chapitre 4. Je prends un autre passage en même temps pour gagner du temps. Donc, c'est dans 1 Roi, chapitre 4, et le verset 5. Un roi 4, 5, il est question, donc, une fois que Salomon est roi, de l'organisation avec les chefs, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais il y avait des rôles importants qui étaient attribués à certaines personnes sous le règne de Salomon. Et au chapitre 5, vous retrouvez Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants. Zabud, fils de Nathan, était ministre d'État, préféré du roi. On s'arrête là. Donc il y a une liste avec d'autres personnages, hein. Il n'y a pas qu'eux qui sont nommés, il y en a d'autres qui sont nommés. Mais ici vous avez les enfants de Nathan. Alors, deux de ses fils. Peut-être il y en a eu d'autres, je ne sais pas. Mais ici vous avez deux de ses fils en tout cas qui sont mentionnés. D'accord ? Qui sont mentionnés comme sous le règne de Salomon, ayant des grandes responsabilités. Ok ? Ministre d'État, je pense que ce n'était pas rien du tout. Hein. Chef des intendants non plus. C'est quelque chose qui était. Voilà. Et il est même dit du ministre du roi que c'était le préféré. D'accord ? Et ce qui m'a, moi, personnellement interpellé, c'est cette idée que c'est vrai qu'il a été donné à David. Nous sommes donnés aux frères et sœurs, c'est vrai. Mais on est donné en premier à notre famille. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi, nous dit la parole. Hein. On est donné en premier à sa famille, au nôtre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a. Moi, ça m'a touché. Parce que si vous regardez dans la parole, la vie des hommes de Dieu, ou de, voilà, vous remarquerez qu'il y en a plein qui sont passés à côté de ça. Ils ont peut-être eu des grands ministères, ils ont peut-être fait des choses pour le Seigneur, ils ont été à la gloire de Dieu dans plein de domaines, mais au niveau des enfants, c'est compliqué. C'est compliqué pour beaucoup. Vous avez un sacrificateur dont les enfants, vous avez Élie, avec des enfants, mais oh là là, mais vous vous dites, mais comment même c'est possible d'arriver là, quoi? Et dans plein de domaines. Alors, c'est vrai qu'après, les enfants ont un libre arbitre comme nous tous. D'accord? À bout d'un moment, on ne peut plus faire des choix pour eux. Ce n'est pas la question. C'est clair, ça, c'est toute la parole nous le dit. Ils font leurs propres choix. Mais la parole nous donne des promesses. La parole nous donne des promesses. Instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vu, il ne s'en détournera pas. C'est par la foi qu'on le saisit. Hein. Si c'est juste une belle philosophie, ça ne marche pas. Hein. C'est par la foi qu'on saisit ces promesses-là. Mais il y a la manière dont Nathan était donné. Et ces enfants, on les retrouve où? On les retrouve au service du roi derrière. De la même manière que Nathan était au service du roi, en tant que prophète, lui, eux, ils avaient d'autres choses. Mais ça m'a touché par rapport aux autres exemples qu'on a dans la parole, que je ne peux pas développer là, je n'ai pas le temps. Mais par rapport aux autres exemples qu'on trouve dans la parole, où ce n'est pas le cas, où c'est même la cata des fois, et bien là, j'ai trouvé ça encourageant. Moi, ça m'a encouragé. En tant que papa, ça m'a encouragé. Et qu'on ne l'oublie pas, c'est vrai, Dieu a un plan pour nous au sein de l'Assemblée, parmi ceux qui nous côtoient, mais en premier, c'est pour notre famille. Dieu nous a donné dans notre famille. Il n'y a pas d'âge pour ça. Moi, en tant que papa, Dieu m'a donné un plan pour mes enfants, c'est vrai. Mais vous êtes enfant de vos parents aussi. Peu importe l'âge. Bon, après, des fois, nos parents sont partis. Mais qu'on est ado, il y a des ados là, qui grandissent vite, mais il y a des jeunes aussi. Dieu a un plan pour vous, qui êtes plus jeune. Dieu a un plan pour vous dans votre famille, pour sa gloire, pour la louange. Mais Dieu a un plan pour vous, là où il vous place. C'est pas vous qui avez décidé de naître dans cette famille-là. Hein. C'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui vous a créé là. C'est valable pour chacun d'entre nous. Dieu nous a créés dans la famille dans laquelle nous sommes nés. Peut-être si on avait choisi, des fois on aurait choisi autre chose. Choisi par sa famille. Hein. Peut-être on n'aurait pas choisi autre chose parce qu'on est très bien aussi. Hein. C'est pas la question. Mais c'est Dieu qui a voulu que je sois ici dans cette famille. Dieu m'a placé là. Ça veut dire que dans cette famille-là, Dieu a un plan pour moi. Est-ce que j'ai l'impression de servir dans ma famille à la louange de Dieu? Ou au contraire, d'être plutôt un problème. Ça, c'est chacun devant Dieu. C'est pas... Je ne peux pas répondre pour vous-même. Hein. Déjà, pour moi-même, des fois, c'est compliqué à répondre. Alors, chacun ses problèmes. Mais chacun devant Dieu. Chacun devant Dieu. Je vais terminer là, mais voilà, qu'on puisse vraiment retenir ce matin avec Nathan hein, que nous sommes donnés pour d'autres. Dieu nous a donnés pour d'autres. De la même manière que Nathan a été donné par David, je suis donné pour ceux qui sont autour de moi. Donné de la manière dont Dieu le veut, pas de la manière dont moi j'ai des idées. Parce que ça marche pas toujours ça. Mais de la manière dont Dieu le veut, je suis donné. Dieu a un plan pour moi. Et qu'on puisse vraiment se souvenir, parce que c'est important, que c'est valable dans les moments où ça va, mais aussi dans les moments où ça va pas. C'est là où il y a besoin. Ça me fait penser à ce pauvre Job. Hein. Ses amis lui étaient donnés et bon, ils auraient dû ne pas ouvrir la bouche, ça aurait été mieux. Tant qu'ils se sont assis à côté de lui et qu'ils disaient rien, c'était très bien pour David, pour Job, pardon. Hein. C'était très bien pour Job. Parce que du coup, ils savaient qu'ils compatissaient. Ils ont pris le sac et la cendre, se sont assis à côté de lui, se sont humiliés avec lui, ils ont pleuré avec lui. Là, ils savaient qu'ils étaient avec lui. Ah, par contre, quand ils ont ouvert la bouche, c'était la cata. C'est pas qu'on soit pas comme ces amis-là, hein, mais qu'au contraire, on soit vraiment selon le cœur de Dieu. C'est important. Dans les moments difficiles, on est là, les uns pour les autres. On est là les uns pour les autres. Je vais prier pour terminer.